7h27, on sait que la fin du mois d'août, c'est la nouvelle cible du gouvernement pour faire en sorte que 75% des Québécois aient reçu leurs deux doses de vaccin. On voit la cadence qui semble excellente chez les adolescents. Déplacement de la date du deuxième rendez-vous. Il y a peut-être des accrocs un peu ce matin, mais bon, les gens essaient de devancer. Parfois, c'est deux semaines, trois semaines. Donc, c'est sûr que la campagne de vaccination se passe relativement bien au Québec. Et avec les mesures annoncées hier par le premier ministre Legault, qui font en sorte que lundi prochain, le Québec va passer soit en mode vert ou en mode jaune, on sent cette espèce de liberté. Mais il y a encore beaucoup de gens qui soulèvent des questions sur, par exemple, un variant, le fameux variant Delta. Est-ce qu'on aura une quatrième vague? Est-ce qu'on va trop vite, etc.? Je fais le tour de ces questions-là avec le Dr. Carl Weiss. Dr. Weiss, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
D'abord, parlez-moi du variant Delta. On voit passer des manchettes, nous, puis c'est bon, l'Alberta, une augmentation du nombre de cas. C'est inquiétant en Grande-Bretagne. Ils avaient déconfiné. Là, ils sont inquiets. Qu'est-ce qu'on sait de ce variant?
C'est le variant indien. Vous savez, l'Organisation mondiale de la santé a décidé de changer le nom des différents variants. On avait des variants britanniques, sud-africains, brésiliens, indiens, et au lieu de leur donner des noms de pays, l'OMS a décidé qu'on les appellerait avec des noms grecs. Donc, ils s'appellent maintenant Alpha, Beta, Gamma, Delta, etc. Donc, le Delta, c'est un des variants indiens. Il y a trois variants indiens, si vous voulez. Il y en a un qui semble plus problématique. Pas qu'il est plus sévère, mais qu'il a l'air de se transmettre plus rapidement. Donc, c'est un variant qui est, je vous dirais, très transmissible, mais à date, tous les vaccins qu'on a, surtout ceux de Pfizer et de Moderna, conservent leur efficacité envers ce variant. Donc, il semble pas que ce soit un variant plus problématique, je vous dirais, en termes de capacité du vaccin à nous protéger, mais c'est un variant, de par sa capacité de transmission, puis du fait qu'il est potentiellement capable de se propager rapidement, et on a vu ce qui est arrivé en Inde, je vous dirais, inquiète certaines personnes. Mais de façon générale, je vous dirais que si on est capable de vacciner très très vite au Canada, ce variant, comme d'autres variants qui risquent de nous sortir dans les, je dirais, mois à venir, m'inquiète moins, c'est surtout si on est capable de très bien vacciner. Alors, c'est vraiment une course. Là, on est en train de gagner la course. Il faut la continuer. Comme vous avez mentionné, il y a des petits accrocs ici et là qu'il faudrait corriger. Mais de façon générale, je vous dirais, on a eu bien pire dans le passé. Donc, il faut quand même relativiser les choses.
L'autre question qui revient souvent des auditeurs, et vous avez déjà soulevé l'hypothèse d'une troisième dose. Si on se projette un peu dans le temps, puis on voit arriver le mois de septembre, le mois d'octobre, où une très forte majorité de Québécois sont vaccinés, avez-vous l'impression qu'il y a une troisième dose qui sera requise ou peut-être même une vaccination annuelle pour justement conjuguer ces variants ou peut-être un autre virus?
Alors, il y a deux inconnues actuellement. La première inconnue, c'est la durée de la protection en fonction de l'âge et en fonction des maladies sous-jacentes. Parce qu'on a dit deux doses, mais deux doses, on a mis là-dedans des gens qui ont 20 ans et qui sont avant aux Jeux olympiques et qui sont en pleine santé, et on a mis dedans des gens qui ont 90 ans et qui sont au CHSLD. Donc, est-ce qu'après 6 mois, la même proportion de ces gens-là sera protégée dans les deux groupes? Est-ce que ces gens auront la même capacité à se défendre contre le virus? C'est un point d'interrogation. Donc ça, c'est la première chose, et ça, on va l'apprendre au fur et à mesure qu'on avance et qu'on voit ce qui se passe de façon prospective avec ces gens-là. La deuxième chose, c'est comment un variant ou des variants inconnus ou connus vont d'ici notre prochaine saison hivernale, c'est-à-dire janvier-février 2002, influer sur notre nombre de cas. Alors, ce qu'on va voir aussi, c'est que vous savez que l'hémisphère sud s'en va dans son hiver, là. Donc, par exemple, au Brésil, en Inde, etc., on s'en va donc dans leur hémisphère sud, vers leur, entre guillemets, leur hiver. Donc, on va voir comment les choses vont être durant la période de notre été et voir s'il y a beaucoup de virus, beaucoup d'activités virales, quel type de virus, quel type de variant. Donc, c'est mieux de planifier à l'avance et donc d'avoir potentiellement des vaccins, parce que les compagnies travaillent là-dessus, des vaccins où on changerait un petit peu la recette pour justement pouvoir aller s'attaquer à ces variants-là de façon beaucoup plus ciblée et beaucoup plus efficace. Donc, une troisième dose de vaccin est possiblement, je dirais, dans les cartons pour quelque part en début 2022.
Bon, question des auditeurs. Est-ce que c'est vrai que dans beaucoup de cas, la deuxième dose provoque des effets secondaires dans les jours qui suivent, là, plus sévères que la première dose?
Oui, ça c'est connu que la deuxième dose donne plus d'effets secondaires que la première dose. Ça a été bien démontré dans les études de phase 3 des deux vaccins. C'est plus fréquent chez les jeunes que chez les gens plus âgés. Donc, plus vous êtes jeune, plus vous risquez d'en avoir. Il faut quand même souligner que ce sont des effets secondaires qui sont très bénins, qui sont très limités dans le temps, qui sont rarement très problématiques. Donc, et puis, il faut aussi dire aux gens, parce qu'on a aussi la question corollaire suivante, c'est si j'ai pas d'effet secondaire, ça veut-tu dire que le vaccin a marché quand même?
Oui.
Alors, parce que les gens, des fois, s'inquiètent de pas avoir d'effet secondaire. Alors, la réponse, c'est oui. Il faut pas quand même paniquer au fait que vous n'avez pas été malade ou vous n'avez pas eu d'effet secondaire. C'est aussi bon. Donc, il faut aussi rassurer les gens sur cet aspect-là.
Il y a l'aspect de la vaccination mondiale. Je lisais ce matin les derniers chiffres. 12 % de la population a reçu une dose, la population mondiale, du vaccin. On discute actuellement d'ouvrir les frontières, de permettre aux gens de voyager un peu plus, peut-être en juillet ou encore au mois d'août. Toute la notion de preuve vaccinale ou de passeport vaccinal. Avez-vous l'impression qu'on va être restreint à soit, je dirais, des contraintes de voyage ou des quarantaines au retour pendant longtemps, compte tenu de ce qui se passe à l'échelle de la planète?
Ben, écoutez, il va falloir d'abord commencer à ouvrir un petit peu, puis moi, je suis un des partisans de l'ouverture des frontières de façon, je vous dirais, sélective et bien déterminée avec des pays chez qui la pandémie est sous contrôle. Donc, quand vous avez des pays qui ont des très forts taux vaccinaux de leur population, et ça va dans les deux sens, on pourrait commencer à ouvrir les frontières de façon complète avec ces pays-là. Il y a des pays qui ont commencé à le faire entre eux et ça marche très bien. La deuxième chose, on parle surtout, je pense, de façon progressive, d'avoir une bulle nord-américaine. C'est-à-dire pour nous, comme pour les États-Unis, l'important, c'est probablement d'ouvrir la frontière américaine très rapidement pour les gens qui sont vaccinés complètement avec deux doses. Donc, si vous avez eu deux doses, vous devriez être capable d'aller aux États-Unis. Si vous êtes américain, vous devriez être capable de rentrer au Canada. À mon sens, ces gens-là ont besoin de zéro quarantaine et ces gens-là n'ont même pas besoin d'être dépistés. Bien sûr, on peut garder le masque dans les avions, c'est un filet de sécurité supplémentaire, mais il va falloir aller, je vous dirais, par étapes. Et la première étape, à mon sens, c'est ce que j'appellerais la bulle nord-américaine, où on devrait commencer à ouvrir nos frontières parce que, bon, pour toutes sortes de raisons, des raisons économiques, mais aussi des raisons, je vous dirais, de voyage, de gens qui doivent se déplacer, qui veulent se déplacer. Et aussi, je pense que là, il faut montrer aux gens que la vaccination fonctionne, que le fait d'avoir eu deux vaccins, ça vous donne quelque chose qui est réellement effectif et tangible et qui est le fait de vous protéger. Donc moi, je pense que sur cet aspect-là, on va progresser. Maintenant, il est clair qu'il y a des pays où, puis là, il va falloir surveiller certaines régions du monde en se disant, ben, OK, vous pouvez aller à telle place, mais à telle place, par contre, là, la quarantaine va s'imposer, le dépistage va s'imposer. Et c'est clair qu'actuellement, les pays d'Afrique, certains pays du Moyen-Orient, certains pays d'Amérique du Sud, certains pays en Asie n'ont pas le contrôle de l'infection, les chiffres sont pas toujours très fiables, les vaccins n'arrivent pas, la logistique d'administrer les vaccins n'existe pas. Donc il y a un ensemble de facteurs qui fait que pour certains pays, il y a définitivement un problème à ouvrir les frontières, mais alors à l'opposé pour d'autres, la situation est à virer au rose, très rose et je vous dirais très optimiste.
En terminant, je vais vous parler du masque parce que, bon, on change de couleur. La semaine prochaine, le Québec sera soit en zone jaune, ce qui sera le cas de Montréal, verte ailleurs. Le masque avec les deux doses, est-ce que ce sera encore, selon vous, nécessaire? On a vu des directives qui disent, bien là, en milieu de travail, c'est peut-être plus nécessaire. Par contre, dans certains déplacements à l'intérieur, il faut garder le masque. Vous en pensez quoi?
Moi, je pense que là encore, il va falloir aller de façon progressive, c'est-à-dire que dans des endroits intérieurs où il y a beaucoup de circulation, je prends par exemple un exemple, un centre d'achat, un aéroport, je pense que pour l'instant, vous pouvez toujours garder votre masque. C'est pas forcément pour votre protection, c'est pour la protection globale de tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut partir du principe que tout le monde n'a pas encore eu sa deuxième dose, qu'il y a des gens qui veulent malheureusement aussi ne pas se faire vacciner. Il y a quand même des gens qui refusent le vaccin, qui, pour toutes sortes de raisons, peuvent quand même être infectés. Donc, moi, je pense que pour certains endroits, le masque devra être conservé. Néanmoins, il est clair que si vous avez des événements familiaux, que si vous avez des événements où, par exemple, tout le monde est vacciné, ou si vous avez des événements à l'extérieur, à ce moment-là, pour des gens qui ont eu deux doses pleines de vaccins, le port du masque devient, je dirais, de moins en moins important. Mais il y a encore des endroits, par exemple les hôpitaux, où là, on aimerait conserver le port du masque parce que ça a un effet important et de protection pour beaucoup d'autres choses et de facilité. Donc, il y a, je vous dirais, il y a un héritage du masque qui va rester au Québec. Vous allez voir que durant la saison de la grippe, entre guillemets, qui va revenir un jour au mois de décembre, janvier, porter un masque, ça va devenir beaucoup plus facile pour tout le monde et ça aura probablement un effet bénéfique. Actuellement, je vous dirais, l'extérieur, deux doses de vaccin après 7 jours après la deuxième dose, c'est clair que vous pouvez enlever votre masque. Des zones qui sont des zones publiques à l'intérieur avec beaucoup de circulation, gardez encore votre masque pour des raisons, je dirais, de protection globale et pas forcément pour votre protection.
Encore une fois, merci, Dr. Weiss. Bonne journée.
Vous aussi.
Au revoir, Dr. Carl Weiss, qui est microbiologiste et chef du service de maladies infectieuses à l'Hôpital Général Juif de Montréal.